agir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
OK, on va parler maintenant de soins à domicile, parce que on voit bien là ce qui s'est passé dans les CHSLD, résidences pour aînés, ressources intermédiaires lors de la première vague. Évidemment, on appréhende ce qui pourrait se produire lors de la deuxième. Jusqu'à maintenant, il y a quelques cas d'éclosion, là, mais c'est pas encore hors de contrôle. Mais on sait bien, puis ça fait des années qu'on le dit, là, que l'avenir pour les soins des personnes aînées, c'est pas dans les CHSLD, c'est à domicile. Ça coûte bien moins cher livrer des soins à domicile que de construire des CHSLD ou des maisons pour aînés. Hein, c'est clair, mais bon, on a de la misère à mettre ça en pratique. Si bien que, comme nous le dit Katia Gagnon et Ariane Lacourcière, deux journalistes de La Presse, donc, elles nous apprennent que, dans les faits, on a moins de personnes aînées qui bénéficient de soins à domicile maintenant qu'il y a 8 ans. Fait que, tu sais, on se gargarise du discours qu'il faut donner de plus en plus de services pour les personnes aînées qui souhaitent rester à domicile. Dans les faits, il y en a de moins en moins qui en obtiennent. Fait que là, ça nous confronte à des décisions importantes pour l'avenir. Parce que je vous le rappelle, je vous le disais au début de l'émission, là, actuellement, là, c'est autour de 15 % de la population qui a 65 ans et plus au Québec, là. Mais dans 10 ans, là, ça va être le quart. Retenez juste ce chiffre-là. Dans 10 ans, le quart des Québécois vont avoir 65 ans et plus. On peut pas tout être en CHSLD et en maison pour aînés, là. Ça marchera pas, là. On va aller rejoindre le gériatre, le docteur Kwok Din Nguyen, gériatre, donc, au CHUM. Je pense qu'il faut prononcer Nguyen. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour, M. Drainville.
Donnez-nous nos... Mettons les options qui s'offrent à nous et les conséquences si on ne choisit pas la bonne.
Écoutez, vous avez tout à fait raison de dire que le Québec, comme d'autres géographies, là, la population y vieillit très rapidement. Et effectivement, là, les personnes de 65 ans et plus vont être pour le quart de la population dans quelques années. Et il est encore plus important de savoir que c'est pas juste les 65 ans et plus, là, parce que c'est vraiment les 85 et plus et les, disons, 75, 85 et plus qui nécessitent plus de soins que les 65, 75. Mm-hmm. Et ça croît encore plus vite et on ne surprendra pas avec les baby boomers. Je pense important de mentionner d'entrée de jeu là, que 90 % des personnes âgées qu'on sonde veulent demeurer à domicile. Puis, très souvent, quand les gens doivent déménager, c'est toujours à contre-cœur parce qu'ils nécessitent des soins qui ne sont plus possibles à domicile. Mm-hmm. L'idée derrière tout ça, évidemment, c'est dans le continuum, là, il y a des gens pas très malades qui ont besoin d'un peu de soins. D'habitude, on est capable de les garder à domicile. Il y a des gens à l'autre extrême très malades ou même avec tous les bons soins à domicile publics, ça va être très difficile de les garder à la maison. Mmh. Mais c'est vraiment l'entre-deux où il y a beaucoup de jeux encore possibles, ou en rehaussant nettement le nombre de personnes ou l'innovation pour le maintien à domicile, on serait probablement capable de retarder l'entrée en institution pour une bonne proportion ou l'éviter tout bonnement.
Donc ça veut dire, Dr Nguyen, qu'il faut quoi? Il faut des travailleuses communautaires, il faut des infirmières auxiliaires, il faut des préposés aux bénéficiaires. Plutôt que de les envoyer dans les hôpitaux, éventuellement, il faudrait les envoyer davantage à domicile pour éviter que les aînés se retrouvent justement à l'hôpital ou en CHSLD. Est-ce que c'est ça?
Il y a plusieurs réponses à ça. Je pense que d'une part, il faut reconnaître que des soins, puis le mot le dit très bien, ça prend des humains. Et donc, oui, on peut construire des immeubles, on peut donner de l'argent, mais si les humains ne suivent pas, puis ça, j'entends, ça va de l'auxiliaire, l'infirmière, les techniciens en réadaptation, les physios, les ergos, les travailleurs sociaux, etc. Mm-hmm. Si on n'arrive pas à former plus de gens, on va avoir de la misère. L'autre point, c'est que je pense pas que c'est un jeu à somme zéro où il faut dégarnir l'hôpital puis amener les gens à domicile. C'est sûr que je pense que le pendule est allé beaucoup vers les hôpitaux, puis on le voit avec la COVID, la préparation dans les hôpitaux, bien davantage que les CHSLD et les soins à domicile. Oui. Mais la vérité, c'est que la pénurie de personnel et le besoin de personnel pour faire face au vieillissement et à l'augmentation des besoins, c'est oui, à l'hôpital, c'est nettement en communauté. Donc, c'est les deux. Là. Il ne s'agit pas ici de dégarnir un pour favoriser l'autre.
On est déjà, là, Dr Nguyen, à peu près, là, on n'est pas loin de la moitié du budget du gouvernement du Québec. Donc, si je vulgarise, là, à peu près la moitié ou tout près de la moitié des taxes et des impôts qu'on paye à Québec qui s'en vont dans les soins de santé, là, santé, services sociaux. Là, veux, veux pas, t'es un contribuable, t'écoutes ça, puis tu te dis, Coudon, il va-tu falloir que je paye encore plus d'impôts pour qu'on ait des soins à domicile? Ou si on ne paye pas plus d'impôts, il va falloir prendre l'argent quelque part, Dr Nguyen?
Mais vous avez tout à fait raison. Vous me posez une très bonne question. Là, je ne suis pas économiste, puis je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui connaît les politiques publiques, mais je peux vous dire que il va falloir faire de l'innovation, puis le mot est très facile à dire, beaucoup plus difficile à réaliser, mais je ne vous imagine pas avec la pyramide populationnelle des baby boomers qui vieillissent pour une population jeune qui a appelé à la soutenir, qui est moins grande, puis je parle de ma génération, disons. C'est sûr qu'il va falloir changer les choses. On ne peut pas utiliser le même système, sa même formulation et y arriver. Puis écoutez, c'est sûr que c'est pas la solution miracle, mais les technologies, le maintien à domicile assisté par des technologies, par des senseurs, le Internet of Things, ça fait partie des solutions. Je pense qu'il y a certaines tâches très simples de rappel qui pourraient être données à des objets plutôt qu'à des humains pour libérer des humains, pour faire des activités qui ont vraiment de la valeur, c'est-à-dire d'accompagner les gens alors qu'ils en ont besoin, plutôt que simplement de faire une tournée rapide, de dire ben manger, de chauffer les repas, tout ça peut peut-être être remplacé. Puis je vois vraiment que dans les prochaines années, il va falloir mettre ça en place, là, parce que les chiffres font simplement pas de sens. Là, on sera pas capable seulement en augmentant les ressources humaines. J'ai pas de calcul bien précis, mais ça va être très difficile de s'imaginer qu'avec le double ou le triple de personnes âgées, mais qu'on va juste être capable de former assez de personnel assez rapidement pour faire tout ça.
Bon, j'aime votre réalisme. Quand vous parlez de, comment vous avez dit ça, l'Internet, comment, Opting, c'est quoi?
Il y a l'Internet des objets. Vous savez, ça me surprendra toujours. Il y a toutes sortes de petits bidules qui existent pour détecter des chutes. Il y a des piluliers un peu intelligents. Mais quand on compare l'innovation qui se fait pour, bon, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas d'atteinte cognitive, qui n'a pas de trouble, qui n'a pas de perte d'autonomie, je pense au Apple Watch, je pense au Fitbit, je pense à la mesure du sucre, de la pression, de la fréquence cardiaque. Tout ça, je pense, doit, dans les 5 à 10 prochaines années, entrer dans le marché ou en tout cas dans les soins aux personnes âgées.
Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire, bon, je peux donner mon exemple. Moi, j'ai un père et une mère qui ont 84 ans. De leur installer une montre Apple Watch, Dr Nguyen, je veux bien, là, ils vont la porter, mais ils ne sauront pas la manipuler. Là. C'est, en tout cas, ça va être compliqué. Là.
Vous avez tout à fait raison. En France, notamment, là, les montres de détection de chute, les bracelets qui détectent les chutes sont remboursés par le gouvernement, puis on sait que l'immense proportion reste dans des fonds de tiroir parce que les gens, n'arrivent pas nécessairement à bien s'en servir et ils n'en voient pas l'intérêt. C'est là qu'il y a des chercheurs qui disent que si on développe de la technologie pour les personnes âgées, entre autres pour le maintien à domicile, il faut faire du co-développement avec les personnes âgées et leurs proches. Il ne faut jamais oublier les proches dans l'équation, là, parce que seulement la personne âgée, ça va être délicat. Quand on fait la diade proche-personne âgée et qu'on développe ça avec eux pour leurs besoins, c'est là que ça va fonctionner. Je suis bien d'accord avec vous on le voit là, quand on met des bracelets que la personne âgée avec certains troubles ne comprend pas, ben elle l'enlève ou ça l'énerve.
Oui, c'est ça.
Et on n'arrive pas à un succès. Là.
Voyez-vous, j'ai Carole qui m'écrit pendant qu'on se jase, Dr Nguyen. Elle me dit « Bonjour, je suis auxiliaire en soins de santé à domicile pour un CLSC. Je le fais depuis 20 ans. Je travaille auprès des personnes de 75 ans et plus en perte d'autonomie. Il en coûte beaucoup moins cher que d'envoyer la personne en CHSLD. Mon travail consiste à donner les médicaments, les soins d'hygiène, l'aide à l'habillement. C'est un travail formidable et c'est un métier absolument nécessaire pour la population vieillissante. Carole, merci pour le message. Ça, c'est très encourageant, Dr Nguyen, parce que quand on écoute toutes les histoires d'horreur présentement, on peut s'imaginer que des personnes qui auraient la vocation d'aller s'occuper de nos aînés n'ont pas nécessairement le goût de le faire, sauf qu'il faut comprendre que s'occuper de nos aînés, ça veut pas dire travailler en CHSLD. Comme Carole, elle travaille, elle se promène d'une maison à l'autre, d'un appartement à l'autre, elle va aider les gens dans leur milieu de vie.
Ah, absolument d'accord. Là. On s'imagine, on a souvent malheureusement cette image un peu, des fois trop noire, des fois trop rose des personnes âgées, puis on a beaucoup parlé de CHSLD, puis il y a des belles choses qui se font, mais c'est sûr que les gens en CHSLD sont malheureusement plus hypothéqués au plan cognitif et souvent physique que les gens dans la communauté. Donc, il y a de tout, quand on parle de personnes âgées, il y a moyen d'être avec des gens plus autonomes et de leur porter assistance.
D'accord.
L'idée aussi derrière tout ça, c'est de repousser le moment où on doit entrer en institution, comme je mentionnais. Puis, il y a une théorie, là, rapidement, qui s'appelle la compression de la morbidité, c'est-à-dire que si cette théorie-là est vraie, ben on repousse le moment où on est malade, on ne repousse pas le moment du décès, ce qui fait qu'on va vivre moins d'années malade, hypothéqué. Et c'est un peu l'idée des soins à domicile puis de la prévention, là. C'est de garder. C'est pas vrai que ça va potentiellement obligatoirement coûter plus cher à la fin de tout ça, parce que ça se peut qu'on repousse seulement la maladie, mais pas vraiment le moment du décès.
C'est très intéressant. Docteur Kwok Din Nguyen, gériatre au CHUM, merci beaucoup pour cette discussion.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir. Luc, ça va?
Bien sûr que ça va.
Alors, évidemment, on a plus en arrière qu'on en avant, toi puis moi, puis on est quand même assez nombreux dans cette situation-là. On est confrontés, évidemment, au jour où on aura besoin de soins et on espère pouvoir rester chez nous pour les recevoir.
Oui, effectivement, mais moi, tu vois, cette conversation-là, qui porte spécifiquement sur les soins pour les aînés, elle nous amène à une autre discussion. Écoute, moi, le chiffre qui me frappe dans le reportage de la presse, c'est en 2018, les aînés constituaient 15% de la population. Mmh. En 2030, c'est-à-dire dans 9 ans, ils représenteront près de 26% de la population.
Ah oui.
Alors, ça a des conséquences, évidemment, pour le cas des aînés, on en parle abondamment, mais aussi pour tout le fonctionnement de la société. Par exemple, on va être obligé d'en tenir compte quand on aura des débats sur l'immigration. Écoute, à un moment donné, si on continue comme ça, d'abord, on est la société présentement en Occident la plus vieille. Là. On l'est, là. Alors,
Avec les Japonais, je pense.
Avec les Japonais, je crois, mais j'ai dit en Occident.
Oui.
Alors, on est là, et puis il va falloir qu'on en tienne compte. Je me souviens du fameux manifeste des Lucides auquel est associé Lucien Bouchard et de nombreux autres.
Oui.
Mettait l'accent là-dessus. Réveillons-nous, on a un problème démographique très, très grave. Quand t'es rendu que t'as plus du quart de la population qu'on identifie comme des aînés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur le marché du travail.
Qui ont 65 ans et plus, pas compliqué.
Qui ont 65 ans et plus. Ouais. Comment on va faire fonctionner nos systèmes de santé en entier? Comment on va faire fonctionner nos écoles et tout ça? Il va y avoir de moins en moins de gens qui vont payer de moins en moins d'impôts. C'est ça le problème.
Luc, j'ai Catherine au bout du fil. Bonjour, Catherine.
Bonjour, M. Bernard, vous allez bien?
Très, très bien, on vous écoute.
D'accord. Écoutez, là, à peu près, je vous dirais, une dizaine d'années, j'avais pris les ondes, justement, M. Lavoie, suite à notre conversation radio. Par la suite, j'ai entendu des choses effrayantes. Moi, je suis du milieu de la santé, spécifiquement au maintien à domicile. J'ai participé à des projets de recherche, dont un qui s'appelle SIPA, qui avait été commandé en 98 par le ministère de la Santé, alors que François Legault, à ce moment-là, était ministre de la Santé. Mmh. Le projet consistait, en fait, de voir comment on s'en allait vers le maintien à domicile, puis comment on faisait pour réintégrer les personnes en CHSLD. C'était quoi la solution avec la grille CTMSP, qui est la grille d'évaluation. Et? Moi, à ce moment-là, après le projet, ils l'ont tabletté. Après 8 millions de dollars, ils ont tabletté ce projet-là. C'est un projet qui est très efficace. C'est un projet où la personne âgée est au centre des professionnels de la santé qui peuvent se côtoyer, se parler d'une problématique. Donc, à partir de là, ils ne faisaient rien. J'ai parti mon agence de maintien à domicile pour pallier au manque, qui veut dire que moi, quand quelqu'un téléphonait, je leur disais, qu'est-ce que vous avez comme service présentement de votre CLSC et qu'est-ce que je pourrais ajouter comme service complémentaire, complémentaire à ce qui existait déjà.
D'accord. Catherine, merci. C'est bien la preuve que ça fait longtemps qu'on en parle, Luc. J'ai quelqu'un qui m'écrit, écoute bien ça, j'ai 66 ans et je possède une Apple Watch. Si on commence tout de suite, ben en vieillissant, on va apprendre à la faire fonctionner rendu plus vieux.
C'est vrai que pour cet aspect-là de la vie des aînés, ces appareils-là sont assez fantastiques. assez fantastique.
Toi, t'en as une, d'ailleurs.
Oui, oui, ouais. J'en ai une.
Bien, continue à la garder. Mets-toi à jour, mon Luc, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être grâce à ton...
À un moment donné, je vais en avoir besoin, c'est ça que tu veux dire.
Non, non, mais c'est parce qu'ils vont savoir, Bernard, grâce à ton Apple Watch, ils vont savoir, Luc, c'est quoi ton rythme cardiaque. Ils vont être capables de calculer ton taux de sucre. Si tu te plantes en train de déjeuner puis en mangeant ton bon de cornflakes, ils vont t'envoyer...
Ou mon gruyot avec la cassonade.
Avec la cassonade, avec le bon sirop d'érable à Bernard.
Avec le sirop d'érable à Bernard, qu'est-ce que je dis là?
En fait, c'est le sirop d'érable à Victor. Le père à Bernard.
Pour toutes les raisons, Bernard,
oui,
que tu viens de mentionner,
oui,
à Noël, je t'offre une Apple Watch, je pense.
Oh!
Parce que toi, tu vas finir par en avoir besoin.
Hey, je t'échange ça pour mon pot de miel. En passant, j'ai ton pot de miel puis j'ai ton pot de sirop, là.
Ben oui, j'ai dit que je venais à l'Halloween. C'est
ben
quand,
certain.
Ça?
L'Halloween, je pense, c'est-tu vendredi? C'est en fin de semaine. Fait que c'est vendredi que tu viens en studio, mon Luc. D'ailleurs, on va essayer de se faire un petit Facebook Live vendredi, hein, n'est-ce pas, Marie?
Ça
Marie?
Serait bon, hein?
Oui, surtout, parce que j'ai une petite surprise pour toi.
Oh, j'ai hâte.
Oui, j'ai une petite... C'est pas le miel ni le sirop, la petite surprise. J'ai une autre surprise pour toi. OK? On perd rien pour attendre. Et je vous préviens, vendredi, soyez à l'écoute. On va se faire un petit Facebook Live. Puis vous allez voir mon Luc. Vous allez voir, il va être pas mal cute. On s'en va à la pause, Luc. On se retrouve de l'autre côté parce qu'on va parler politique américaine fin de semaine qui a été pas mal occupée. Dans un instant, bougez pas.